Selon la police, aucun indice d'un acte criminel n'a été découvert. L'acteur américain était âgé de 95 ans, sa femme de 63 ans.
C'est tout.
Sonia, j'ai pas assez d'une main.
Pour.
Et pour compter jusqu'à 6.
C'est la 6e déjà.
Et oui, et les inscriptions sont ouvertes. Alors chanteurs et chanteuses, c'est moment de tenter votre chance pour participer à Radiovision.
Pour que votre titre original passe en radio, rendez-vous sur radiovision.fr. Vous avez jusqu'au 18 avril. C'est gratuit et ouvert à toutes et tous.
Infos et inscriptions sur radiovision.fr.
Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Nous, lundi, on était avec le Conservatoire d'Angers. Mardi, on était avec Les Épices Curieuses et Jean-François Goujon pour parler de son film Hallucination. Et mercredi, on parlait exposition avec J.D. Lemarié. On parlait exposition photo plus précisément. Et ce soir, on est en culture puisque comme chaque mois, on est avec le Quai et le CNDC. On va parler d'un gros événement qui arrive très prochainement. C'est le festival Conversation. Ça sera du 14 au 28 mars. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on fait gagner 4 places pour aller voir des spectacles au Quai. 2 pour le spectacle Take Me Home et 2 pour De Fugue ensuite. Ça se passera sur le Instagram de Topette. Ça s'appelle Topette-8Radio-8G. Et ce soir, on aura aussi Charlie. Bonsoir Charlie.
Salut Nolwenn.
Qu'est-ce que tu vas nous raconter ce soir?
Eh bien, je vais parler de mes 40 ans.
Oula, ça commence à faire un petit peu. On écoutera ça tout à l'heure. On aura aussi un podcast des légendes angevines et on se quittera avec un épisode de Choupi, Matoudi et Topette. C'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va partir en balade avec Camille et puisqu'il y a du soleil, on va retourner un petit peu en bord de Loire.
Envie de partir en vadrouille? Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons nous balader et profiter de la douceur de la Loire. Quel que soit le temps, il fait toujours bon se balader en bord de Loire. Les crues, les sécheresses, les clapotis de la pluie ou la douceur du printemps, il y a tellement de manières d'apprécier le fleuve royal. Partons ensemble se balader le long de la levée, autour de Chalonnes-sur-Loire. On descend tranquillement sur une petite cale pavée. Il n'y a pas grand monde, ces petits coins sont plutôt méconnus et pourtant pleins de charme. La Loire est déjà face à nous, vive et profonde. J'espère que tu n'as pas oublié tes bottes, car même en plein été, certains passages restent escarpés. Un petit chemin créé par les animaux environnants nous permet d'avancer vers la plage. C'est plutôt boueux et les hautes herbes fouettent le pantalon. C'est qu'il faut le mériter, notre panorama. Après quelques mètres à batailler avec la nature, nous arrivons enfin sur cette plage. Sauvage, peu explorée, elle n'est pas dangereuse car elle reste le long de la berge. D'énormes troncs de bois flottés jonchent le sol. C'est reposant. Posons-nous sur ces bois et admirons la faune sauvage. Si tu y restes assez longtemps et assez silencieux, tu peux en croiser du beau monde. Des ragondins, bien sûr, mais aussi des aigrettes, des martins pêcheurs et des castors. D'ailleurs, si tu continues ton périple autour de la Loire, notamment dans les étangs environnants, tu pourras trouver des traces de ces castors. Des troncs rongés, des arbres couchés et les prémices de barrages peuvent être aperçus. Une grande partie de ces animaux sont protégés aujourd'hui. Plus le temps semble long, plus le repos se fait ressentir. Attendons encore quelques instants que le soleil se couche et qu'il éclaire d'une autre lumière notre fleuve préféré. Seuls les ponts nous rappellent que la civilisation n'est pas si loin. N'hésite pas à y retourner avec un bon livre et une serviette en plein été. C'est un vrai plaisir. Et un petit conseil. Ne t'aventure pas sur les plages du milieu de la Loire. Ce sont pour beaucoup des sables mouvants. Et avec le courant, tout peut changer très vite et l'eau prend tout sur son passage. Pas encore rassasié ? De multiples rivières se jettent dans la Loire. Tu peux partir à la découverte de la Mayenne, de la Sarthe, du Loir ou encore de l'Èvre. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous !
Camille, qu'on peut retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et juste avant d'accueillir nos invités du soir, une petite annonce. Si jamais vous êtes fan de musique rock, alors notez bien la date du 1er mars parce que c'est à cette date qu'a lieu le festival Les Hérons Matent le Son. Ça sera à Saint-Mathurin-sur-Loire. Et deuxième annonce, il y aura Cours et 49 qui va proposer sa troisième soirée de Cours en Folie saison 3. Ça sera le 3 mars à 20h au Folie Angevine. Et nous, on peut tout de suite accueillir nos invités du soir.
Invité de Topette sur Radio G.
Et ce soir, on est en compagnie de Marion Colléter. Bonsoir. Directrice du CNDC et Suzanne Copin en charge de la communication du CNDC. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va parler ce soir du festival Conversation. Ça approche, ça sera le 14 mars. En quelques mots, on en reparlera tout à l'heure un peu plus en profondeur. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est le festival Conversation, Marion ?
Oui, c'est la quatrième édition d'un temps fort. Un temps fort, c'est là en l'occurrence 15 jours qu'on dédie à la danse. La danse prend place dans tout le quai. Donc près de la Maine, dépasse même, on va dire, les murs du quai pour aller se balader aux 400 coups, dans d'autres lieux où on va aussi proposer des projets chorégraphiques. Donc l'idée, c'est de vivre pendant 15 jours, de rencontrer la danse, de pratiquer la danse, de ressentir la danse pour être ensemble, réfléchir ensemble, partager des émotions ensemble.
Et si on parle un petit peu de la programmation, ça sera quoi les temps forts durant ce moment ?
Alors, on a 20 spectacles avec plusieurs représentations, donc à peu près 25 représentations. 20 spectacles, ça veut dire 20 artistes chorégraphiques qu'on invite. C'est donc à peu près une centaine aussi d'artistes qui seront présents pendant ces 15 jours à Angers. La programmation sur cette édition, on a voulu rendre visible les multiples liens qu'entretiennent la danse et la musique. Et ça se fait d'une manière toujours différente, on va dire, soit évidemment par les choix musicaux, soit par la présence de la musique sur scène, soit par une musicalité des corps aussi chez certains artistes. Donc voilà, on a eu envie de partager avec le public différentes manières de conversation entre la danse et la musique.
Et je crois qu'il y a trois thématiques, si je ne dis pas de bêtises, histoire de la danse, corps et environnement et société en mouvement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus ?
Alors, ces thématiques-là, c'était l'édition précédente.
Et ben voilà, je me trompe. Alors, celles de cette année, quelles sont-elles ?
Celles de cette année. Alors, nous, on choisit jamais une thématique. On fait une programmation, une architecture de programmation. Je parle plutôt d'architecture, de dramaturgie, d'une programmation. Et c'est vraiment les artistes, au final, qui déterminent une thématique. Cette fois-ci, comme on l'a dit plus largement, c'est cette rencontre entre la musique et la danse. Mais on a effectivement mis en avant des parcours, 4 parcours, dans l'idée plutôt de donner un peu comme une sorte de conseil, de guide en tout cas, de proposer une façon de rentrer dans cette programmation, de guider le public dans cette programmation, parce que certains ont effectivement une facilité avec la musique, c'est la musique est plus quotidienne, on va dire, pour les gens, donc des fois c'est plus facile de rentrer par ce biais musical vers la danse. Et donc on a construit avec l'équipe 4 parcours. Un premier parcours qu'on a nommé le répertoire revisité. C'est plutôt un répertoire musical, on va dire, qui est revisité par la danse. On a ensuite proposé un parcours qu'on a nommé
Musique Live, si on veut.
Collègue Suzanne.
Si on veut continuer vraiment sur les spectacles qui mêlent danse et musique, effectivement, on a identifié 4 spectacles où la musique est jouée directement en live au plateau. Et les deux autres parcours s'éloignent un peu du prisme musical. Il y a le parcours Aller voir ailleurs,
qui invite à découvrir des spectacles avec un autre regard culturel, d'autres cultures, notamment asiatiques. On a deux spectacles avec une entrée japonaise. Et le dernier parcours, c'est performance et art visuel, où du coup les artistes invitent aussi un aspect quelque part presque muséal dans la façon dont le spectacle est construit, avec des jeux de lumière notamment, si on pense à Au Lointain d'Aurélien Douget, qui sont très spécifiques et voilà, qui nous donnaient envie de mettre en lumière cet aspect-là.
Donc, chacun des parcours est construit de 4 spectacles différents qui se déroulent tout au long des 15 jours du festival. Et c'est vraiment plus l'idée de guider le public dans ses choix. Évidemment, moi j'aurais envie d'aller tout voir. Et il y a ce rapport-là à la musique qui existe dans à peu près tous les spectacles. Donc.
Et en plus des spectacles, je crois que le festival inclut aussi des ateliers et des installations un peu interactives. Comment ça permet d'enrichir ce festival, Marion ?
Alors, effectivement, il y a la programmation de spectacles et à côté de ça, avec l'équipe, on construit une programmation en parallèle. C'est comme ça qu'on l'a nommée. On y a pensé, en tout cas, on propose au public donc de pratiquer la danse par différents ateliers de pratique qui sont animés et donnés par les artistes qui sont invités en programmation dans le festival. Cette année, ce sera effectivement la pratique de la danse sera vraiment une entrée très forte qu'on a eu envie de proposer là de façon un peu plus intense, on va dire, parce que ça nous semble important aussi d'expérimenter avec son propre corps pour comprendre ce qu'on voit, et puis d'autant plus dans les moments qu'on vit. Je crois qu'on a besoin d'être ensemble, de pouvoir de nouveau aussi se toucher, etc. Donc tout au long du festival, il y a des ateliers qui sont même accessibles dès les enfants, enfin dès 6 ans. Donc vous pouvez venir avec vos enfants dans un atelier parent-enfant, ou avec vos grands-parents d'ailleurs aussi, c'est possible. Il y a toute une journée aussi le samedi 22 mars qu'on a appelée une journée pour danser, qu'on organise avec la compagnie La Parenthèse de Christophe Garcia, qui est une compagnie angevine. Et à côté de cette pratique... On propose aussi des rencontres, des discussions sur des thématiques qui sont en lien avec la programmation de spectacles, comme par exemple cette conférence donnée par Adrien Chiquet qui s'appelle « Et si nous étions un écosystème ?» où on va faire un parallèle entre le monde culturel et le monde des forêts. Comment la forêt a réussi à se réinventer, à s'adapter au contexte, et comment nous, monde culturel, on va devoir le faire aussi. Il y a des introductions au spectacle, à des spectacles assez historiques comme la recréation de récital et de boléro par Dominique Brun. Elle viendra introduire la manière dont ces œuvres à l'origine, donc créées au XXe siècle, ont apporté un nouveau regard à la danse. Il y a aussi des rencontres entre les artistes. On va créer des discussions, des conversations entre deux chorégraphes après leur spectacle. Et puis, on a aussi envie de faire la fête. Donc, il y a une soirée notamment qui clôturera le festival, soirée sueur. Je pense que le titre laisse assez entrevoir l'idée d'un grand dance floor guidé par des anciens étudiants du CNDC. Mais il y a aussi des concerts avec notamment Charles Dubois. Peut-être Suzanne, tu veux en dire un mot parce que c'est toi qui nous l'a présenté.
Oui, Charles, du coup, il est originaire d'Angers. Il a fait l'école Talm. Et aujourd'hui, il développe une pratique de batteur. Là, c'est son projet solo qu'on va accueillir, mais il a aussi d'autres projets en duo ou composition plus large. Et il sera d'ailleurs à Savenir samedi 8 mars, je crois, avec Nistna.
Suzanne, Marion, vous restez avec nous. On va revenir dans quelques instants sur le festival, mais juste avant tout ça, on va écouter un podcast des légendes angevines. On va partir découvrir les mystères des vignes du roi René.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre chronique sur les mythes et légendes de l'Anjou. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante du roi René et du château d'Angers. Un récit qui mêle histoire et légende dans le cœur du Maine-et-Loire. Notre histoire commence au XVe siècle, une époque où l'Anjou était au centre de la vie politique et culturelle de la France. Le personnage principal de notre légende est René d'Anjou, surnommé le bon roi René. Né en 1409, René est un homme aux multiples talents. Duc d'Anjou, comte de Provence, roi de Naples et de Jérusalem, il était aussi poète, musicien et mécène des arts. Le château d'Angers, imposante forteresse médiévale surplombant la Maine, est le théâtre de notre légende. Construit au XIIIe siècle, ce château était la résidence favorite du roi René. C'est ici que se déroule l'événement qui a donné naissance à notre légende. Selon la tradition, le roi René, grand amateur de vin et de bonne chère, avait fait planter dans les jardins du château un cépage particulier, importé de Hongrie. Ce plant de vigne, dit-on, produisait un vin d'une qualité exceptionnelle, au goût incomparable. Un jour, alors que le roi se promenait dans ses jardins, il remarqua qu'un de ses jardiniers semblait particulièrement préoccupé. Intrigué, René s'approcha et demanda au jardinier ce qui le troublait. L'homme, tremblant, avoua qu'il avait goûté le vin royal sans permission et qu'il en était tombé amoureux. Au lieu de se mettre en colère, comme on aurait pu s'y attendre, le bon roi René éclata de rire. Il déclara alors « Mon ami, si ce vin est assez bon pour vous faire risquer votre vie, alors il est assez bon pour être partagé par tous. » C'est ainsi que, selon la légende, naquit le fameux rosé d'Anjou. Le roi René ordonna que ce cépage soit planté dans toute la région, donnant naissance à l'une des traditions viticoles les plus célèbres de France. Bien sûr, comme toute bonne légende, celle-ci mélange allègrement faits historiques et fiction. Il est vrai que le roi René était un grand amateur de vin et qu'il a effectivement contribué au développement de la viticulture en Anjou. Cependant, l'histoire du jardinier et du vin hongrois relève probablement plus du folklore que de la réalité historique. Ce qui est certain, c'est que le roi René a laissé une empreinte indélébile sur l'Anjou. Son règne est considéré comme l'âge d'or pour la région. Une période de paix et de prospérité durant laquelle les arts et la culture ont fleuri. Le château d'Angers, quant à lui, reste un témoin silencieux de cette époque. Ses imposantes murailles, ses tours massives et ses jardins soigneusement entretenus continuent d'évoquer l'époque du bon roi René. Et qui sait, peut-être que quelque part dans ces jardins, un descendant de ce fameux plant de vigne continue de pousser, perpétuant la légende. Aujourd'hui, le souvenir du roi René reste vivace en Anjou. Son nom orne des rues, des places, des écoles. Et chaque fois qu'un verre de rosé d'Anjou est levé, c'est un peu de cette légende qui revit. Alors, cette histoire est-elle vraie? Bon, rien n'est moins sûr. Mais c'est un peu le principe des légendes, non? Voilà qui conclut notre chronique d'aujourd'hui sur les légendes angevines. J'espère que cette histoire du roi René et du château d'Angers vous a plu et vous a donné envie d'en apprendre davantage sur l'histoire fascinante de notre belle région. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde des mythes et légendes de l'Anjou.
Les podcasts des légendes imaginaires de l'Anjou qu'on retrouve une semaine sur deux dans Topette ou alors tous les jours sur le site internet de Radio G. Et nous, ce soir, on est toujours en compagnie de Marion Colléter, directrice du CNDC, et de Suzanne Copin en charge de la communication du CNDC. Alors, tout à l'heure, on parlait de la programmation du festival. Et si on continue à en parler un petit peu, il y aura le spectacle Récital et Boléro. Les spectacles le samedi 15 mars. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Marion?
Oui, ce sera le premier samedi du festival. On aura ouvert juste la veille, donc on sera encore en pleine forme pour découvrir ces deux pièces qui sont en fait une recréation de pièces historiques, comme je l'évoquais tout à l'heure, par Dominique Brun, qui est chorégraphe et historienne de la danse, et François Chéniaud, qui est danseur dans ces deux spectacles. Et je m'arrête un peu sur lui parce que c'est aujourd'hui un peu une icône de la danse contemporaine française. C'est vraiment un interprète magnétique, fascinant. Et donc là, il aura le grand plateau de la scène T900 au Quai pour lui, accompagné par deux piano et de pianiste, donc, pour présenter donc une recréation de Boléro, qui est une pièce. On connaît beaucoup la musique du Boléro, mais un peu moins cette chorégraphie de Nijinska, qui n'est autre que la sœur de Nijinsky, qu'on connaît un peu plus, mais cette chorégraphe Nijinska, donc du début du XXe siècle, qui est tout à fait à connaître aussi. Et Récital, qui est une adaptation des danses libres de Isadora Duncan. Isadora Duncan, c'est aussi une grande chorégraphe qui a fait beaucoup évoluer le mouvement de la danse au début du XXe siècle également. Donc on va faire un peu un pas dans ces débuts de la danse contemporaine. C'est encore un peu tôt pour dire ça au XXe siècle, début XXe, mais comment aujourd'hui un interprète tel que François Chéniaud peut donner à voir ces chorégraphies qui ont 100 ans en fait, et comment elles sont toujours aussi étonnantes, innovantes, impressionnantes. Donc je pense que ça va être un très très grand moment. Et donc avant ce spectacle, c'est Dominique Brun qui fera une introduction justement un peu historique à ces deux pièces. Et on a eu envie de créer aussi un après-spectacle, parce que le mardi suivant, on propose en collaboration avec le cinéma des 400 coups une soirée de court-métrage autour de François Chéniaud, où on présentera notamment le film Boléro, qui a été réalisé par Nance Laborde-Jourda, qui est un jeune réalisateur qui a gagné plusieurs prix, notamment le prix de la critique, du syndicat de la critique au Festival de Cannes il y a 2 ans. Il sera là pour le présenter. Donc ce sera une soirée de court-métrage, qu'on a appelé Courte Conversation, au 400 coups le mardi, où on rentrera encore plus dans l'univers de ce fascinant interprète qu'est François Chéniaud.
Et si on remonte un petit peu en arrière, du coup, est-ce que, Marine, vous pouvez nous expliquer la genèse du festival, comment le festival Conversation est né?
Alors, quand nous sommes arrivés avec Noé Soulier, donc, qui est chorégraphe et directeur du CNDC, et moi-même en 2020 maintenant, en voyant aussi les possibilités de cet espace au Quai, on a eu envie de d'imprégner l'ensemble de cet énorme bâtiment de la danse pendant un temps resserré, un temps fort. C'est vrai que le festival a aussi cette faculté d'être plus visible à un moment. La danse pâtit un peu de ce manque de médiatisation. Donc je vous remercie d'en parler d'ailleurs à Radio G très régulièrement. Mais donc le festival permet de rendre davantage visible aussi tout ce qu'on fait. C'est un peu comme si on resserrait pendant 15 jours toute notre activité de l'année, mais pour la partager de façon encore plus intense, encore plus complète avec le public.
Alors le festival, il porte un titre très évocateur, il s'appelle Conversation. Quelle place justement le dialogue il occupe entre l'approche artistique et la programmation, Suzanne?
Entre l'approche artistique et la programmation.
Quelle place il a le dialogue dans ce festival?
C'est un peu comme on l'évoquait tout à l'heure, dans la programmation en parallèle, on a prévu de nombreuses rencontres avec les artistes programmés. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent nous en dire plus sur la façon dont ils conçoivent leur spectacle, et de donner aussi du coup la parole au public pour échanger en direct avec ses chorégraphes. Mais c'est vrai que la conversation, elle se tisse aussi pour nous tout au long de ces 15 jours de festival, de façon plus informelle aussi, entre les spectateurs et spectatrices eux-mêmes, pour parler des spectacles qu'ils ont pu voir au cours de ces 15 jours, et aussi avec les artistes qui sont du coup, comme on le disait tout à l'heure, très nombreux pendant cette période de festival, et qu'on peut croiser du coup au Quai, mais aussi dans les rues à Angers. Donc c'est aussi une invitation à ce que le public s'empare de la parole et aille dialoguer directement avec les artistes au coin des rues.
Est-ce qu'il y a peut-être une volonté de passerelle entre différents publics, par exemple de créer une passerelle entre les amateurs de danse et les professionnels, Marion?
Oui, comme on disait, cette idée de conversation, c'était créer du lien, du dialogue entre un public et des artistes, et aussi entre des artistes eux-mêmes, parce qu'au final, ils viennent jouer dans des théâtres, mais de façon assez indépendante, on va dire. Donc là, l'envie aussi de recréer une communauté artistique pendant un moment qui peut être effectivement un mélange d'amateurs, amatrices et de professionnels. L'idée aussi de conversation, et c'est encore plus important aujourd'hui, c'est de recréer un dialogue entre l'art et la société d'une manière un peu plus, on va dire, globale. Mais c'est vraiment cette envie-là, en fait, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il y ait une possibilité de compréhension aussi. C'est notre rôle d'institution, on va dire, culturelle et chorégraphique en l'occurrence, et en tant que service public de la culture, de créer ce dialogue avec le public, de créer cette conversation et de l'amener à ressentir toutes les potentialités de l'art, de la danse notamment, pour faire société, pour faire lien entre nous.
Et comment on sélectionne les artistes qui vont participer au festival ?
Très bonne question. Alors, une programmation se fait sur le long terme. Nous, on ne fait pas de... Enfin, comment dire, on, dans notre monde culturel, on utilise le terme diffusion, diffuser. Je dis tout le temps que nous, on ne fait pas ça. En fait, on accompagne des artistes. On accompagne des artistes qui nous semblent importants, intéressants, qui recherchent une manière justement de montrer la danse, de montrer les corps et au-delà de ça, de montrer une vision de société à un public d'une manière différente. Donc quand on sent que ces artistes-là sont en recherche et renouvellent aussi la manière de parler au public... parce que évidemment notre enjeu aussi c'est de faire en sorte que le public plus jeune soit, on va dire... soit tout d'un coup addict à l'art, en tout cas c'est ce qu'on essaye, à la culture, c'est important. Donc on va essayer de trouver des nouvelles manières, et ça c'est les artistes qui ont cette capacité de créativité et d'invention, de nouvelles manières de parler à ces publics, notamment jeunes. Donc on va dire que c'est un dialogue, une conversation qui se fait avec les artistes au long cours. Et petit à petit, dans les échanges, quand tel artiste va avoir un projet de création, on va dire que c'est notre rôle de l'accompagner là. On a envie que le public puisse voir ce que cet artiste recherche et va créer. Et petit à petit, ça donne cette architecture de programmation. Donc c'est vraiment pas... on fait pas une programmation à partir d'un catalogue de spectacles. C'est vraiment accompagner des artistes parce que c'est important qu'ils puissent parler au public.
Marion, Suzanne, vous restez avec nous. On va faire une petite pause musicale sur le 101.5 FM. On va écouter Cool Things du groupe Sonic Youth. C'est un groupe dans lequel Kim Gordon participait avant. Et c'est cet homme qui a composé la musique d'un des spectacles qui est programmé OK, et ça s'appelle Take Me Home. écoutait Cool Things sur le 101.5 FM de Sonic Youth. C'était un groupe dans lequel Kim Gordon faisait partie. Kim Gordon qui a composé une musique du spectacle Take Me Home. Ce sera à l'affiche au CNDC. Suzanne, est-ce que tu peux nous toucher deux mots sur ce spectacle ?
Oui, du coup, effectivement, donc c'est un spectacle chorégraphié par Dimitri Chamblas, qui travaille avec Kim Gordon. Ils se sont rencontrés aux États-Unis, puisqu'ils habitent tous deux Los Angeles pour un peu de voyage. Et dans ce spectacle, l'idée c'était de chorégraphier aussi avec des guitares électriques sur scène. Donc du coup, il y a à la fois, enfin, les danseuses et danseurs jouent avec leur corps et avec ces guitares électriques. Voilà, c'est un spectacle grand format sur le grand plateau de la T900 qui sera proposé en clôture du festival Conversation le 28 mars.
Et on invite d'ailleurs le public à venir avant s'échauffer avec un pré-show, comme Dimitri Chamblas l'appelle, c'est-à-dire pratiquer avant de rentrer dans la salle. Avant de rentrer, je dirais, dans ces souterrains un peu underground de Los Angeles, parce que c'est vraiment un spectacle d'atmosphère. On rentre dans une atmosphère très underground, comme ça, avec cette musique et ces guitares, ces interprètes, donc qui sont plus de 10 au plateau. Incroyable, il y a notamment Marion Barbeau, qui est danseuse à l'Opéra de Paris, mais qui a été la vedette du film Encore de Clapiche, qui est sorti il y a 2-3 ans, qui avait fait quand même pas mal parler de la danse d'ailleurs. Et donc Marion Barbeau sera aussi là sur scène dans ce spectacle.
Et si on parle d'un deuxième spectacle, ça s'appelle De Fugue en Suite, c'est de Salia Sanou. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Et c'est quand déjà la date?
Alors, la date, c'est le vendredi 21 mars. Le spectacle s'appelle De Fugue en Suite. Alors, ça laisse deviner le fait que Salia Sanou, qui est un chorégraphe installé en France depuis plusieurs décennies maintenant, mais qui fait beaucoup d'allers-retours entre le Burkina Faso et la France, parce qu'il a aussi construit là-bas au Burkina Faso et on leur remercie de ces liens qu'il arrive à créer un centre de développement chorégraphique avec notamment un endroit de formation en danse, donc entre l'école du CNDC et l'école de Salia Sanou à Ouagadougou, on a beaucoup d'échanges. Et donc là, on l'invite avec sa dernière création, où il a voulu, comme on évoquait là dans un des parcours, le répertoire revisité. Il a voulu revisiter le répertoire de Bach. Cette musique qu'il mêle avec beaucoup d'autres influences que lui a eues plus jeune, enfant. Donc il y a cette imbrication entre une musique traditionnelle du Burkina et Bach. Et tout ça interprété par des danseuses assez incroyables, très multiculturelles également. On y retrouvera d'ailleurs deux anciennes étudiantes du CNDC qui ont été diplômées là en juin 24. On est bien contents et contentes de les retrouver sur le grand plateau de la T900 pour présenter cette pièce qui est vraiment, je dirais, un moment de douceur et de beauté. Il arrive à nous faire voir ce collectif féminin où il y a une sorte de sororité aussi qui s'en dégage, et en même temps plein de personnalités par ces gestuelles très différentes que Salia a réussi à montrer de ces 6 interprètes, 6 danseuses assez incroyables.
Et si vous voulez assister à ces spectacles, on rappellera toutes les informations pratiques en fin d'émission, mais on va tout de suite maintenant passer à la crocro de Charlie.
Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter...
La croco, la chronique de Charlie.
En voiture, Simone !
Non mais sérieux ?
La croco, la chronique de Charlie.
J'adore le hula-hoop !
Ironique, absurde, réfléchi. La croco, la chronique de Charlie.
J'ai mangé une méduse.
Survolté, décalé, déjanté. La fofo, la folie de Charlie.
Comme Adrien, je viens d'avoir 40 ans. Et c'est important qu'on en parle, Nolwenn. 40 ans, c'est pas rien. D'ailleurs, mon psychiatre, il m'a fait plaisir. Il m'a dit, je pensais pas que vous tiendrez jusque là. Je lui parle de ma coiffeuse. Ça devient douloureux de la voir. Elle me parle tout le temps de Turquie. C'est pas facile pour elle non plus. Elle ne sait pas ce qu'il faut couper. Elle dit, avec vous, je me sens jardinière. J'enlève les mauvaises herbes, hein. Voilà, avant quand elle me voyait, elle souriait, plus maintenant. D'ailleurs, ça me rappelle une campagne de pub du siècle dernier. On voit deux femmes qui s'entraînent sur un stand de tir, et il y en a une qui demande « Vous êtes mariée ?» L'autre met une balle dans la tête de sa cible et dit « Avant oui, plus maintenant. » Voilà, eh bien, l'abbé Pierre est un homme formidable. Avant oui, plus maintenant. Pierre Palmade adore rouler à l'anglaise. Avant oui, plus maintenant. Pierre Benoît aime Christelle Morancé. Avant oui, plus maintenant. Et Pierre Benoît déteste les enfants. Avant oui, plus maintenant. Je vois moins ma coiffeuse, mais j'ai demandé à faire un examen de la prostate. Hein, c'est le cadeau des 40 ans, ma petite expérience excitante. Pour ma santé, évidemment, et puis pour voir si l'année prochaine, je rejoins une équipe de rugby. Oh mince, on a perdu le match. Bon, allez, à la douche. Ah, j'aime bien la forme de ce ballon. Bon, à 40 ans, on a les amis qu'on peut. Hein. Moi, j'ai Adrien. Après, on est différents aussi. Hein. Lui, il a un problème d'IMC, moi je suis YMCA. Ouais, c'est nul, mais j'adore les jeux de mots et c'est important pour faire des mots fléchés. J'en fais des blagues, même si Adrien se moque de moi. En fait, je ne sais jamais s'il rigole ou s'il s'étouffe quand il mange. Hein. On a chacun nos soucis de quarantenaire. Moi, j'aimerais que mes cheveux poussent et lui que son ventre s'arrête. Les jeux de mots, c'est le pire dans l'humour. Mais moi, je m'en fous, ma vie est derrière moi. Hein. 40 ans, c'est l'âge en fait où tu t'écoutes plutôt que les autres. Enfin, en fait, c'est surtout que moi, je les entends plus, quoi. 40 ans, pas de meuf, pas d'enfant, pas d'argent, juste une Renault 5. Hein. Allez, je pose un rap à l'ancienne. 40 ans, mec, putain, 40 ans. 40 ans, j'ai pas de Rolex, la société m'a mis à l'index, ma vie, c'est faire du feu avec un silex, putain, j'avance à rien sur mon Solex. Eh oui, 40 ans et pas d'argent. Hein. Moi, c'est pas Calvin Klein, c'est Calvitie. Bisous, Adrien. Et je serais déjà heureux de toucher le SMIC. Hein. Moi, je touche le SMIG. Hein. C'est le SMIC quand il a été créé, sous Charlemagne. Et tu fais pas grand-chose avec 300 écus par mois. Et avant, j'adorais voyager. Sac sur le dos, l'aventure. Alors cet été, je m'y remets. J'ai booké une croisière en Méditerranée. Je ferai des escales, Athènes, Rome, Venise, pour aller aux toilettes. Et après, je remonte dans la piscine du bateau et je m'empiffre comme un retraité niçois. Je demanderai au bateau de passer devant la bande de Gaza. Hein, et je leur crierai « Sous les gravats, la plage !» Ils répondront « Ah non, les otages !» Bon, j'ai proposé à Adrien de venir avec moi, mais il m'a dit que le bateau, c'est pas possible à cause de ses problèmes d'incontinence. Et oui, l'âge peut nous limiter. Heureusement, il y a le LSD.
La croco. Ironique, absurde, réfléchie, survoltée, décalée, déjantée. La chronique de Charlie.
Eh ben, merci beaucoup Charlie, on te retrouve dans 2 semaines. Et il est bientôt venu l'heure de nous quitter pour ce soir. Donc on était avec le CNDC, avec Marion Colléter, directrice du CNDC, et Suzanne Copin en charge de la communication. Est-ce que, si vous pouvez nous rappeler en quelques mots, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver au festival Conversation, Marion, Suzanne, Marion?
Vous allez retrouver de la bonne humeur déjà, parce qu'on sera tous là pour vous accueillir, toute l'équipe du CNDC et du Quai. Vous allez y voir des artistes incroyables, plus inventifs les uns que les autres. Vous allez ressentir des choses et des émotions fortes. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous proposer et je suis sûre qu'on y arrivera. Vous allez, oui, vivre des moments qui sont importants à vivre ensemble, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer.
Et quels sont, Suzanne, les gros spectacles qui vont arriver prochainement, les plus importants, peut-être ceux à ne pas louper?
On a envie de tout citer, mais peut-être dans les spectacles dont on n'a pas parlé ce soir, qui seront présents au Festival Conversation, on peut parler de D'après une histoire vraie de Christian Rizzo, qui sera aussi joué dans la grande salle T900 avec des batteurs sur scène, et qui est une pièce iconique, on va dire, de la danse aujourd'hui, qui a été créée il y a 10 ans à peu près aujourd'hui et qu'on est très content de retrouver au CNDC.
Et si on veut réserver nos places pour le festival, pour des spectacles, comment ça se passe? C'est sur le site internet?
Oui, sur le site du CNDC ou sur le site du Quai, vous avez le lien vers la billetterie en ligne. Donc vous pouvez prendre vos places à toute heure du jour ou de la nuit. Et vous pouvez aussi vous rendre au Quai où l'équipe de billetterie est toujours ravie de vous conseiller sur les spectacles. et de vous préciser aussi les nombreux tarifs possibles.
On donne rendez-vous à nos auditeurs donc le 14 mars pour le début du festival. Et nous, on vous rappelle qu'on fait gagner donc 4 places pour aller voir 2 spectacles au quai. Il y en aura 2 pour Take Me Home et 2 pour le spectacle de Fugue Ensuite. Ça se passe sur le Instagram de Topette, topette-radio-8G. Et nous, la semaine prochaine, on restera en culture un peu, puisque lundi, on sera avec le Shabada, mardi avec le théâtre du champ de bataille, et mercredi, on parlera du printemps des poètes. Et pour ce soir, on va se quitter avec un épisode de Choupi Matoudi. Moi, je vous dis à demain, et topette.
Bonjour, c'est Lucie de Choupi Matoudi. Aujourd'hui, une simple question. Comment chat va ? Oui, comment chat va ? Avoir un petit félin dans notre vie, c'est profiter de sa présence apaisante, pouvoir peut-être jouer avec lui, le caresser s'il apprécie, ou encore s'étonner de certaines attitudes, s'attendrir de ses petits ronrons quand il s'installe sur nos genoux, ou mieux encore, sur notre clavier d'ordinateur. Non, je ne parle pas du tout pour moi. Mais bien souvent, quand on voit notre chat, ou bien celui du voisin, de sa sœur, de son copain, on ne le regarde pas vraiment. Comment ça ? Félix a beaucoup maigri ce mois-ci ? Hein, Choupette ? Non, elle va bien. Bon, elle vomit tous les jours, mais les chats, tu sais. Ce qu'on ignore souvent, c'est qu'à l'origine, le chat est un prédateur autant qu'une proie. Et que peut faire une proie pour survivre ? Cacher ses faiblesses, entre autres. Les problèmes de santé du chat sont souvent détectés assez tard par leurs humains, parfois malheureusement trop tard, parce que nos petits félins ne manifestent pas immédiatement de mal-être, d'inconfort. Et puis, on détecte mal les signes de douleur chez eux. On ne réalise pas toujours qu'un chat qui mange moins, ou qui mange mais qui perd du poids, un chat qui se cache, ou un chat qui se pose dans sa litière toute la journée, c'est un chat qui va mal. La santé est un aspect crucial de la vie de nos matous, et c'est à nous, en humains responsables, de nous en préoccuper. Les visites de prévention, par exemple, sont un excellent moyen de faire le point sur la santé de Minou et d'être accompagné par une équipe vétérinaire si des soins s'imposent. Aujourd'hui, pour parler de la santé de nos chats, j'accueille Agathe. Bonjour Agathe, comment vas-tu ?
Bonjour Lucie, ça va bien et toi ?
Ça va. Alors, toi tu es ASV. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier ? Qu'est-ce que ça signifie ASV ?
Alors, donc ASV, ça signifie assistante spécialisée vétérinaire. Donc du coup, dans ce métier-là, on va dire qu'on a un peu deux parties différentes. On va avoir la partie administrative, où on gère l'accueil de la clinique, on gère le téléphone, on gère les rendez-vous, l'emploi du temps, on gère les stocks, les commandes, toutes les choses comme ça. Et puis on a toute la partie médicale, si on veut dire, donc vraiment l'assistanat au vétérinaire. Donc on va l'aider en consultation s'il y a besoin de faire un peu de contention pour faire une prise de sang, pour faire certains soins sur les animaux. Et puis on va aider aussi en chirurgie, donc l'avant-chirurgie. On va préparer le chat à la chirurgie, l'endormir, le raser, préparer les instruments, un peu comme une infirmière, mais pour les animaux.
T'es multitâche alors.
C'est ça.
Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus ?
Bah, moi, c'est le côté médical, mais beaucoup d'assistantes vétérinaires vous diront ça. C'est plutôt le côté animaux que le côté humain, même si ça va ensemble.
Bien sûr. Alors, tu exerces dans une clinique un peu particulière. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui. Alors, bah, du coup, j'exerce dans la clinique Mon Chat et Moi, et c'est une clinique réservée aux chats.
Alors, qu'est-ce que ça implique ?
Eh ben, du coup, en fait, on a remarqué depuis de nombreuses années que les chats sont des animaux très, très stressés et qui ont beaucoup de mal à sortir de chez eux, à part si c'est des chats d'extérieur qui sont habitués à leur jardin. Mais ils ont vraiment leur territoire défini, et dès qu'ils sortent de leur territoire, ils sont très stressés, très peureux, ils peuvent être agressifs, ils peuvent être tout timides, ils peuvent vraiment avoir des réactions très différentes d'habituellement chez eux, et ils sont aussi très sensibles aux odeurs. Donc du coup, dans une clinique traditionnelle, il y a tous les autres animaux, il y a les chiens qui aboient, il y a toutes les odeurs des autres animaux, et ça, c'est vraiment un gros stress pour eux. Et du coup, des fois, ça dérange vraiment beaucoup pour l'examen clinique du vétérinaire. Il a énormément de mal à faire des choses sur le chat. Et du coup, bah, le fait d'être vraiment réservé au chat, tout est, bah, du coup, il y a que des chats. Et vraiment, tout est adapté. Les salles de consultation, il y a pas mal de, enfin, on essaye de mettre des étagères en hauteur pour que les chats, ils aiment bien se percher en hauteur. Donc, ça les aide. On a des petits diffuseurs d'huiles essentielles pour les apaiser. Tout est calme. Il y a une petite musique d'ambiance. Enfin, on essaye de tout faire au mieux pour que le chat soit le moins stressé possible. Et que du coup, le vétérinaire puisse au mieux faire son examen clinique et se rendre compte des problèmes ou pas, parce que le chat les cache beaucoup. Donc, s'il est plus à l'aise,
il va un peu moins cacher ses petits symptômes.
Oui, en effet, c'est quelque chose de vraiment crucial. Est-ce que toi-même, tu as une histoire qui t'a particulièrement marquée dans ton parcours professionnel?
Alors, il y a en fait peut-être pas forcément une histoire précise, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qu'on fait suivre leur chat dans d'autres cliniques, et une fois arrivés chez nous, dès le début, ils nous disent « Bon, alors mon chat, il est un petit peu agressif, il a beaucoup de mal chez le vétérinaire, etc. » Et au final, vu qu'on met tout en œuvre vraiment dans la douceur pour mettre à l'aise le chat, bah, beaucoup de fois, les gens sont étonnés. Ils nous disent « Waouh, mais je l'ai jamais vu aussi à l'aise que ça chez le vétérinaire, c'est trop cool, etc. » Et du coup, bah, ça, à chaque fois, ça nous fait plaisir parce qu'on se dit que vraiment, c'est un concept qui est... Bah, qui est réel au final et qui met vraiment à l'aise les chats et au final les humains avec, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça permet aussi aux humains de pouvoir mieux appréhender les problèmes de santé de leur chat, sans
c'est
doute.
C'est ça. Parce que du coup, en fait, le stress du chat fait aussi stresser les humains et inversement au final. Et du coup, bah, si les petits humains, ils sont plus à l'aise à venir chez le vétérinaire, ils vont moins stresser, ils vont pas se dire, oh là là, c'est une horreur. Non, mais moi, je l'emmènerai que s'il est malade parce que sinon, ça le stresse trop, ça me stresse trop, c'est trop compliqué. Et donc là, au final, le fait que ça apaise un peu tout le monde, bah, ils viennent beaucoup plus souvent pour faire de la prévention. Et bah, comme tu l'as dit au tout début, bah, c'est super important, la prévention chez le chat, vu qu'il cache beaucoup, beaucoup les symptômes, quoi.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment le concept de ce qu'on appelle la clinique cat-friendly.
Oui,
c'est-à-dire faite pour les chats, vraiment, dans un environnement qui est destiné à les aider.
C'est ça, tout à fait.
Alors, Agathe, on arrive déjà à la fin de cette chronique. Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter?
Alors, bah, je voudrais vraiment ajouter que... comme on l'a dit, vraiment, les chats, ils cachent énormément leurs symptômes. On se rend pas compte qu'ils sont malades. Et ça, c'est vraiment d'expérience. Une fois que les symptômes sont arrivés, c'est que la plupart des maladies sont déjà bien avancées. Et c'est malheureux parce que du coup, des fois, on peut pas les traiter. Donc vraiment, allez voir votre vétérinaire tous les 6 mois pour votre chat et il sera en meilleure santé.
Oui, la prévention, c'est
très important. Ouais, ouais.
Merci à Agathe.
Merci.
Merci à tous.
Radio G 101.5 FM.
Savourez nos différences.